Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Oh, je suis content d'être là, dis donc.
Ouais.
Ah ouais, ouais.
Bon, bah, t'as bien.
Ouais, ouais. Bon, t'as bien. Mais j'aimerais quand même qu'on revienne sur l'épisode 4 de ce podcast.
D'accord.
Il n'y avait aucune cohérence dans mes propos. Je m'en excuse auprès de tous mes auditeurs.
Ah, c'était juste ça.
Ouais,
c'est ça. Vous disiez que c'était un épisode lamentable, en fait.
Non, pas lamentable, mais je me suis trouvé très incohérent. Donc j'ai décidé de revenir un petit peu sur de la cohérence pour ces podcasts quand même iconoclastes.
1-2, soundcheck, soundcheck.
Soundcheck.
Méthode paranoïa critique, 2 points.
Paranoïa, c'est le maximum du délire, et critique, qui veut dire le maximum de raisonnement.
Vincent Malone.
Pierre-Étienne Michelin.
Le bonhomme Michelin.
Pierre-Étienne Michelin, bonjour.
Bonjour Vincent Malone.
Vous revenez d'où ?
Je reviens de Saint-Germain-du-Bois, en Saône-et-Loire, pour l'enterrement de ma tante. Figurez-vous. Ma tante, Marie-Claire Michelin, était thanatophobe. La thanatophobie, c'est donc la peur de mourir en permanence. Et depuis qu'elle est née, elle a consacré sa vie, elle a donné toute son énergie à préparer sa fin de vie. C'est extraordinaire. La peur de mourir, c'est quand même la paranoïa la plus légitime de la vie. Non ?
Oui.
Ça y est, il s'endort.
Mais pas du tout. Je vous écoutais.
Donc Marie-Claire Michelin consacre toute sa vie, dès son enfance, à préparer sa fin de vie. Et elle me dit, donc je suis son seul neveu, hein, toute sa vie, elle me dit, à 70 ans, tue-moi. À 70 ans, trouve de la mort aura, fais-moi... Je veux mourir à 70 ans. Donc elle milite toute sa vie à la DMD. L'association du droit pour mourir dans la dignité, qui milite pour l'euthanasie, pour choisir sa fin de vie, pour choisir sa mort. Et elle fait des directives anticipées. Les directives anticipées, qu'est-ce que c'est ? C'est en fait nommer une personne de confiance en cas d'accident, en cas de maladie grave, en cas de pas d'acharnement thérapeutique. Une personne de confiance qui est soit ton frère, ton neveu...
Pourquoi mon frère ?
Alors, je sais pas, enfin, une personne de confiance.
Non, mais parce que mon frère ne connaît pas du tout ta tante.
Non, mais... Alors, oui, enfin, je prends cet exemple, parce que je métaphorise. Elle a vachement bien préparé son truc. Sauf que, patatrac, 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 patatrac. Alors là, j'adore ce mot parce que ça fait patatrac, patatrac. Elle se fait shooter sur un passage piéton à Auxerre par une bagnole, par une petite conductrice très sympa de 69 ans qui a porté des habits à sa mère qui avait fait un infarctus le matin, enfin bref. Et là, patatrac, paf, elle part en hélico, paf, paf, coma, paf, réanimation, paf. Génial. Tu vois, le truc, paf. Et là, tout bascule. Là, on rentre dans un truc où tout ce qu'elle avait préparé, tout ce dont elle avait peur, lui arrive. Elle avait tellement peur de devenir dépendante, de devenir un légume, que paf, ça lui arrive. C'est génial. Je trouve ça incroyable. On s'est même posé la question, après enquête de police, si elle s'était pas jetée sous la voiture. Non, il n'y a aucun doute. Il n'y a aucun doute. Elle revenait de ses courses. Bon, il pleuvait un petit peu. La chaussée était mouillée. Bref, elle se fait projeter à 25 mètres. Elle a percuté ma tante donc à 49 km/h, exactement 49,75. C'est très précis. Donc elle n'est pas en infraction. Hein. Sinon, à 51, c'était un délit, puisqu'on est en ville. Et ma tante, bon, bah, se retrouve dans un état comateux. Elle est dans le coma, réanimation, elle part à Dijon en hélico. Moi, j'arrive le lendemain. J'arrive le lendemain avec la bouche en cœur en disant «
Mais pourquoi vous l'avez réanimée ? Vous n'avez pas vu que, en fait, elle avait des directives anticipées, qu'elle ne voulait pas être dans cet état-là ? Pourquoi elle est encore vivante ?»
Alors le type me répond un truc génial.
« Vous savez, votre tante, elle arrive à 3h du mat' en hélico dans une urgence vitale immédiate. On réanime. »
Serment d'Hippocrate.
Bien sûr. On va pas regarder dans son sac si elle a fait des directives anticipées pour ne pas la réanimer dans un cas pareil.
Du coup, donc je discute avec lui pendant une heure et demie. Il m'explique tout. Il m'explique les tuyaux, pourquoi, qu'est-ce qu'on lui a fait. Et on parle donc de la fin de vie. On se met à parler de la DMD, qu'elle était militante à la DMD, qu'elle voulait pas devenir dépendante et tout ça. Et il me dit,
ben, c'est vachement intéressant, et en fait.
Donc, moi, j'étais là, genre, mais en fait, finalement, les directives anticipées, ça sert à rien. Ça sert à rien, puisque vous en tenez pas compte.
Alors, si, maintenant qu'on l'a réanimée, maintenant qu'elle est stabilisée, si on la débranche, là, aux yeux de la loi, c'est un homicide.
Donc, il me dit.
Par contre, maintenant que j'ai rencontré la famille, que j'ai lu vos directives anticipées, que vous êtes la personne de confiance, qui peut prendre la décision de la débrancher ou pas, ou de la maintenir en vie. Évidemment, si ce soir, elle fait une septicémie et une complication, on ne va pas bouger. On ne va pas bouger.
Mais il me dit...
Vous savez, moi j'ai 17 lits dans mon service. En neurotraumato.
Chirurgie neurotraumato. Donc c'est que des AVC, que des accidents de moto, que des lésions cérébrales graves. Et il me dit...
Sur les 17 lits, j'en ai un sur deux, tous les jours, qui repart les deux pieds de long, qui meurt. Donc ces questions, on les aborde tous les jours avec les familles.
Et il me dit,
ben, des fois, on a un petit papy de 96 ans qui fait un AVC. On explique à la famille, bon, écoutez, dans l'intérêt de tout le monde, je pense que ça sert à rien de s'acharner. Laissons-le partir, parce que les lésions vont être... On peut le réanimer, mais ça va être un légume, ça va être difficile pour vous, ça va être difficile pour tout le monde. Et ils sont là, non, on veut pas qu'ils partent. Réanimer.
Donc forcément, je me retrouve avec ma tantinette dans un coma profond. Et donc très vite, bon, je deviens son tuteur grâce aux directives anticipées. Et ça a duré 4 ans et demi. Après le patatrac, ça a duré 4 ans et demi où c'est un légume. Et je l'ai enterré ce matin. J'étais en conseil hier soir à Paris. Je suis parti ce matin à 6h. J'ai enterré... On l'a enterré, c'est génial, parce que c'était, ouais, non, mais c'était très sympa, parce que c'était une trentaine, tu vois, tous les, on n'a pas fait, elle voulait pas de cérémonie à l'église, tout ça. Elle voulait, en fait, au départ, elle voulait donner son corps à la science. Mais ça, tu peux le faire que quand tu le notifies par écrit de mon notaire. Comme elle était thanatophobe, elle a préparé sa fin de vie, toute sa vie. Elle a pris des assurances vie. Ma tante, c'était le genre de personne, si tu l'aidais à traverser, paf, elle te mettait dans son testament. Tu vois, c'est génial. Elle était vraiment thanatophobe.
Mais qu'est-ce qu'elle avait préparé, en fait? Qu'est-ce qu'elle a fait, par exemple, dans sa petite enfance pour préparer sa mort?
Ben, en fait, déjà, leur petit frère, enfin, le petit frère de mon père et de ma tante... À l'âge de 4 ans, ils avaient 8 et 6 ans, ma tante et mon père. Et à l'âge de 4 ans, le petit frère meurt d'une méningite foudroyante. Et là, comme on est... Voilà, la mort, c'est tabou pour les enfants, faut pas les emmener aux enterrements. Bon, on est en 1950, 49, 48. Donc on n'emmène pas les enfants aux enterrements, ça se fait pas. Donc en fait, leur petit frère, il disparaît. Sans qu'on leur donne aucune explication. Ils ont juste un vague souvenir de... Mais il est disparu. Il est disparu, on n'en parle pas. On ne sait pas ce qui s'est passé. Et c'est que bien plus tard, des années plus tard, qu'ils découvriront que leur petit frère de 4 ans est mort d'une méningite foudroyante. Quand t'es un enfant, quand t'es en pleine expansion, en pleine possession de tes moyens, tu te dis, putain, comment c'est possible ça, de disparaître comme ça, paf. Et ben en fait, du coup, ma tante fait une tuberculose osseuse, donc elle est handicapée avec des broches dans les jambes pendant 20 ans, une tuberculose osseuse. Et du coup, ça lui confère une espèce de peur omniprésente de mourir, de disparaître. Et à un moment donné, par exemple, alors je te raconte un truc incroyable, c'est que j'en peux plus de voir ma tante, apparemment, complètement tétraplégique, le regard dans le vide, à moitié morte. Donc j'appelle la DMD et je dis, qu'est-ce que j'ai comme solution ? Il me pose la question.
Est-ce qu'elle marque des signes de souffrance ?
Alors, je dis, oui, la dernière fois, elle transpirait, elle était crispée, j'ai senti qu'elle souffrait. Et l'infirmière me dit...
Mais non, vous savez, si ça se trouve... Elle dort bien la nuit, et si ça se trouve, elle a des selles.
Donc,
en fait, elle marque pas des signes de souffrance permanente.
Sinon, j'aurais pu demander de la mettre sous sédation profonde permanente. Alors sinon, j'avais une autre solution, c'était de l'emmener en Suisse, faire un suicide assisté, avec les directives anticipées, tout le bordel. Et là, la DMD me dit...
Mais ça va être un combat difficile, parce que ça coûte 12 000 euros.
Et en fait, comme t'es tuteur... Dès qu'il y a une dépense de 500 euros, tu dois en référer, tu dois faire une requête au juge des tutelles. Il me dit, clairement, la nana, elle me dit...
Vous ne trouverez jamais un juge des tutelles qui vous accordera le fait de dépenser 12 000 euros pour mettre fin à ces jours.
Voilà. Donc on en est là, quoi. On en est là, quoi.
Ta tante, elle est restée sur un fauteuil, sur un lit ?
Ah non, elle est restée alitée avec des escarres, avec des complications pas possibles, inconsciente. Enfin, des fois, on avait l'impression qu'elle comprenait ce qu'on lui disait, on avait l'impression qu'elle était... c'est comme l'histoire de Vincent Lambert, cette histoire qui a été très médiatisée, tu sais, Vincent Lambert.
C'est sa femme qui se battait pour mettre fin à ses jours et ses parents étaient contre. Ah. Et la loi a bondé dans le sens des parents.
Bon, je comprends, c'est une histoire terrible. C'est des sentiments que, tant que tu les as pas vécus, tu peux pas les comprendre.
Ta tante, pendant 4 ans, elle est restée inconsciente.
Au début, quand elle est sortie du coma, elle avait des moments de lucidité, de conscience. Et un jour, elle m'a clairement dit, dans sa façon de s'exprimer avec beaucoup de difficultés,
pourquoi je suis dans cet état.
Parce qu'elle était, elle avait des fractures partout, hein. Elle avait des fractures tibia, péronée, bassin, fracturé les côtes, et surtout traumatisme crânien. Et en fait, elle me dit, pourquoi je suis encore en vie ? Qu'est-ce que t'as branlé, bordel ? Mais c'était limite ça, quoi. Alors, je dis, j'aurais pu faire.
Bon, il va falloir s'accrocher, et puis, mais t'inquiète.
Non, je lui ai pas dit t'inquiète. Parce que j'aime pas qu'on dise t'inquiète, ça m'inquiète. Donc, du coup, c'est des questions... C'est vrai que c'est des questions qu'il faut se poser, dont il faut parler avec ses enfants, avec ses dignes successeurs. C'est des questions qu'il faut aborder, ouais, à la fin de vie. Sans rentrer dans l'extrême de la thanatophobie et passer sa vie entière à paranoïer et consacrer sa vie à préparer sa fin de vie ou sa mort.
Qu'est-ce que t'as branlé, bordel ?
Elle a eu cet accident en 2013, elle avait 71 ans depuis une semaine. Et elle a toujours dit toute sa vie, je veux mourir à 70 ans, je veux pas aller au-delà, je veux pas être dépendante, je veux pas me voir, je veux pas aller dans un EHPAD. Et paf! Paf! Patatrac. Tu vois, c'est un truc qui peut arriver à tout le monde. Elle l'a pas vu. C'est pour ça que je dis toujours, quand tu traverses une rue, il faut pas regarder la voiture qui va s'arrêter. Il faut regarder le conducteur. Il faut vérifier que le conducteur t'a bien vu. Parce que ma tante, elle avait un parapluie, tu vois. Donc elle a dû voir la voiture arriver. Il lui restait un mètre pour arriver sur le trottoir d'en face, sur un passage piéton. Elle a dû voir la voiture. Elle a dû penser que cette voiture allait s'arrêter. Erreur. Erreur fatale. Et en fait, cette petite conductrice, là, son pare-brise a explosé parce que ma tante a été projetée sur le pare-brise. Après, elle a fait un vol plané de 25 mètres. Elle a continué à rouler dans le déni. Dans le déni, genre, je sais pas ce qui s'est passé. Et en fait, elle a regardé dans son rétro, elle a vu le corps de ma tante étendu sur la route. Donc, elle avait passé ma tante. Elle était au-delà, elle est 32 mètres après l'impact. Et là, elle a arrêté sa voiture, elle a compris ce qui venait de se passer. Paf! Elle tombe dans les pommes. Pareil. Elle part aux urgences. Bon, ça, elle s'en est remis, enfin, psychologiquement, elle s'en est jamais remis. Elle n'a jamais pu reprendre le volant. Elle n'a jamais pu reconduire. Tellement traumatisée, elle n'a jamais pu se remettre au volant d'une voiture.
C'était plus ou moins de sa faute. C'était, il y avait une.
Ah bah c'est oui, elle a 100% tort. Oui, elle l'a pas vu, clairement. Ma tante est sur le passage piéton et puis elle est pas du tout dans sa conduite à ce moment-là parce qu'elle a amené des habits à sa maman qui avait fait un infarctus le matin. Et l'accident a eu lieu d'ailleurs devant l'hôpital d'Auxerre. Elle arrivait à l'hôpital et elle était. Elle le dit, j'étais pas du tout dans ma conduite, je sais pas.
Elle fait une grave faute de conduite, quoi.
Ah bah, elle ne voit pas.
Un piéton. Et
elle le percute.
À fond les manettes.
Ouais, sans aucun freinage, ouais.
Que dalle.
À 49-75 km/h.
Elle fonce dedans.
Oui.
Et elle fauche ta tante.
Ouais.
Et ses directives avec.
Ouais. Je l'ai eu au téléphone plein de fois. Pour lui dire
bon, il faut aller de l'avant, c'est un drame pour tout le monde.
Et je l'ai appelé à midi là, après l'enterrement, et je lui ai dit
bah voilà, c'est pour vous sachiez que ça y est, ma tante est décédée. Sachez que bon,
pendant toute la durée du procès, alors ça c'est pathétique, les avocates interdisent d'avoir des contacts avec la partie adverse, et elle est passée en procès pour blessure involontaire. Mais après, c'est les assurances qui se battent entre elles pour chiffrer les indemnités d'indépendance, les années de... Enfin, tout. Oui, ça revient quand même, un accident comme ça, où tu perds toute ta dépendance. C'est déjà 250 000 euros de frais de sécu. Parce qu'évidemment, c'est l'assurance de la conductrice qui va payer les frais médicaux. Hélicoptère, coma, tous les jours, c'est un service de neurotraumato en réanimation, c'est, je sais plus, 8 000 balles par jour, hein. Ça grimpe. Et puis après, t'as des calculs. Mais tu rencontres des gens absolument extraordinaires, hein, dans les experts, les neuroscientifiques, les neurologues. Tu rencontres des gens extraordinaires. Et on a découvert, figure-toi. Hein, alors comme quoi le pire est souvent vertueux. Il y a toujours une certaine vertu dans le pire des choses. Parce qu'on a découvert... En fait, à force de faire des IRM de son cerveau pour la soigner, pour essayer de faire en sorte que, on a découvert qu'elle avait, en fait, de naissance, une atrophie corticale.
Une atrophie corticale, c'est le dégénérescente. C'est-à-dire que c'est le cervelet, ou je ne sais plus quelle partie du cerveau, qui se rétracte au fil des années.
Donc en fait, si elle n'avait pas eu cet accident, ma tante, à 75 ans, 78 ans peut-être, elle aurait commencé à perdre la parole, elle aurait commencé à devenir grabataire et dépendante, sans qu'on comprenne pourquoi. Donc elle serait partie en HP, parce qu'elle est délirante, incompréhensible, violente, on ne sait pas. Elle serait partie en HP.
Et là, du coup, elle est partie comment ?
Elle est partie, elle avait une hydrocéphalie importante. C'est de l'eau dans le cerveau, en fait, qui comprime le cerveau. Puis, petit à petit, en fait, il y a tellement de pression intracrânienne que tu finis par perdre tout. Et la déglutition. Les deux derniers réflexes que le cerveau gère, c'est la déglutition pour manger, donc le système digestif, et la respiration, le cœur. Et puis à un moment donné, ben, y a tellement de pression sur le cerveau que même ça, il peut plus gérer, quoi.
Au final, pour toi, c'est quand même été plutôt un soulagement.
Ah ben, évidemment, c'est une délivrance. J'ai dit, ça y est, enfin. Ouais, bien sûr. Ah bah oui, bien sûr, ouais, bien sûr. Ouais.
Et tu penses qu'elle a vécu un calvaire pendant 5 ans ou...
La première année, après l'accident, oui, c'était un calvaire, parce qu'elle était consciente de son état. Elle était consciente de son état. Après, ça s'est dégradé, elle ne me reconnaissait plus, on ne pouvait plus parler. Et après, je ne sais pas. En fait, je ne sais pas si après, elle était consciente. Mais ça, c'est des questions qu'on se posera toujours. Je te prends un exemple. Un jour, je fais une intervention à la batterie, dans un IME de jeunes polyhandicapés. Et puis, il y a une jeune fille de 14 ans qui est là, Aurore, elle s'appelait, qui avait fait un AVC 2 ans auparavant. Et elle était dans un état, tétraplégique. Elle a perdu la parole, elle a perdu tous les sens. Et, mais j'ai toujours des frissons quand je raconte cette histoire, parce que, incroyablement, quand j'ai commencé à jouer de la batterie, c'est une gamine qui faisait de la danse, qui écoutait beaucoup de musique, qui faisait du sport, qui était hyper vivante. Et quand j'ai commencé à jouer de la batterie, on a senti dans ses yeux qu'il y a eu un éveil, avec un tout petit rictus, et elle a essayé de bouger et on a senti qu'elle s'est un peu dressée, comme si elle voulait se lever et danser. Voilà, évidemment, les éducateurs qui étaient là l'ont détaché de son fauteuil et l'ont porté pour qu'elle... Et je te jure qu'il y avait, dans ses yeux, il y avait quelque chose. Donc en fait, tu peux pas savoir le degré de conscience qu'un post-AVC, qu'un neurotraumatisé peut avoir. Et c'est terrible parce que il y a des choses, tu penses que la personne est complètement... est complètement zéro conscience, et puis tu lui parles d'un truc, et puis d'un seul coup tu vois une larme qui coule. Alors est-ce que c'est juste un automatisme cérébral, un réflexe, ou est-ce que c'est un tout petit moment de conscience, donc et d'émotion, du coup?
Je pense que c'est pour nous tous pareil. Quand on a un moment de conscience réellement, on a toujours une larme qui coule. Ou alors c'est qu'on n'est pas normal.
Ouais, non, ou alors t'es hyper positif et hyper... Ouais. Non, moi, quand j'ai un moment de conscience, en général, j'ai un orgasme.
Pierre-Étienne Michelin, merci.
Merci, Vincent.
Et à bientôt pour un 6e épisode.
Ouais, si tu veux.
Pour expliquer que celui-là était pas bien, peut-être.
Ouais, celui-là, non, mais il était un peu... moi, je vois tout ça avec... le pire est toujours vertueux. Il y a toujours... tout finit par s'arranger, même mal.
Sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowl and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowl and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.